Je vais commencer par vous parler de ça. Je vais introduire vraiment ce que je crois que c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur d'une manière concrète et qui a été confirmé à deux reprises par le message de Jean-Luc, qui ne savait pas que je voulais parler de ça. Et le message de la semaine dernière, vous vous souvenez ce sur quoi nous a interpellé Matthieu la semaine dernière, c'était le royaume, chercher le royaume. Et il nous avait dit qu'on avait un mandat, c'est de faire des disciples. Et le deuxième mandat, c'est d'être des citoyens du royaume de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Ben, si vous en souvenez pas, révisez les cours la semaine, hein, d'accord? Soyez des étudiants du Seigneur. Ce que je veux dire aussi, c'est que en écoutant les messages, il me semble que le Saint-Esprit m'est interpellé sur quelque chose d'important. C'est qu'on vous parle souvent, et on nous parle souvent du royaume de Dieu. Du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Je ne vais pas faire de polémique là-dessus, je ne suis pas là pour faire de la théologie. Mais on nous parle souvent du royaume, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être un citoyen du royaume? Concrètement. Alors, je me suis dit, peut-être que c'est moi qui ai tort, mais dimanche, je rentre du culte voir ma petite femme, qui vous salue. Elle vous remercie pour vos petites pensées, elle se porte de mieux en mieux. J'ai une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles, la bonne nouvelle de la croix à vous apporter, mais une deuxième bonne nouvelle, ce midi à la maison, nous mangeons Maryse. Enfin, du Maryse, si je puis dire, nous ne la mangeons pas. Nous mangeons du Maryse, c'est Maryse qui fait la cuisine, donc on va bien manger, enfin. Ça fait deux semaines que Nathan, quand il se met à table, il dit « C'est toi qui as fait ça ?» J'ai dit « Ouais, ça. » Voilà. Donc, Maryse vous salue, elle vous embrasse, vous lui manquez, et je pense qu'elle sera là d'ici encore deux dimanches, parce qu'il y a des petites piqûres à faire, mais ça ira beaucoup mieux dans les semaines qui viennent. En tout cas, elle vous remercie pour vos pensées, vos petits messages de soutien, d'amour. Ça fait plaisir. Ça lui fait plaisir, je crois. Donc, je rentre dimanche. Et je lui dis, chérie, si je te disais comme ça, d'emblée, tu me réponds, donne-moi au moins deux ou trois valeurs du royaume de Dieu. Elle me dit, ah là, tu me tends un piège, là, tu me prends dépourvu. C'est pas naturel. Vous allez me dire, bon, elle était peut-être en convalescence, donc elle était peut-être encore dans le gaz, mais quand même. Et je dis, si je vous pose la question, donnez-moi une valeur concrète du royaume de Dieu, je suis pas sûr que vous répondiez d'emblée. Vous avez peut-être hésité à répondre. Vrai ou faux? Bon, c'est vrai, je ne me suis pas trop trompé. Donc, le but de cette série de prédications, là, je vais peut-être vous bassiner, mais bon, peu importe. Je pense que dans les mois qui viennent, j'ai vraiment à cœur de vous expliquer ce qu'est le royaume et les valeurs du royaume. Mais je n'ai pas envie de vous l'expliquer d'une manière théorique. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. J'aime bien la concrétisation sur le terrain. J'aime pas les grandes théories, j'aime bien le concret. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une des valeurs du royaume, parce que j'introduis. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, c'est ce que je vous dis. On nous parle souvent du royaume de Dieu, mais savons-nous vraiment ce que signifie le royaume, ses valeurs, sa mentalité? Le but, c'est de nous amener dans les semaines qui viennent à capter la mentalité et à y travailler. Et puis, j'ai des objectifs. Si Timothée, mon fils, m'écoute, je le fais chaque semaine, Tim, tu vois, je continue d'obéir à mon fils, je donne des objectifs. Définir les valeurs du royaume et définir toutes nos actions ou mentalités qui s'y opposent. Pourquoi? C'est un peu par égoïsme, je dois vous le dire, parce que parfois, quand on est responsable, ou leader, peu importe comment, ou pasteur, peu importe comment, ce qu'on appelle, vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est fatigant de toujours amener et corriger les personnes à être comme quelqu'un du royaume. Moi-même, je me fatigue souvent et je m'exerce à le devenir, mais parfois je vois des choses et dans notre fonctionnement d'église, dans notre fonctionnement de corps de Christ, il me semble parfois détecter des mentalités qui s'opposent au royaume de Dieu. Alors, je ne dis pas ça avec un air accusateur, vous connaissez mon cœur, je vous aime beaucoup, hein, d'accord? Mais quand même, un peu par égoïsme, j'ai envie de me reposer dans les semaines qui viennent. Et je dirais que ce serait bien quand même que quelques-uns captent quelques bonnes mentalités du royaume. Alors, Le royaume de Dieu, par définition, c'est la sphère où Dieu gouverne. Royaume, gouvernement. D'accord ? Et c'est le domaine où s'exerce le pouvoir gouvernemental de Dieu. Autrement dit, ici, il n'y a personne d'autre que Dieu qui gouverne. Et dans mon cœur, il doit y avoir personne d'autre que Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui doit gouverner. Alors, je vois les gens qui ont un problème avec l'autorité, ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas te soumettre aux autorités. Ça, on verra, une valeur du royaume de Dieu, c'est il y a la sphère d'autorité que Dieu délègue aux hommes. C'est-à-dire que Dieu délègue une autorité à des hommes et ces hommes délèguent aussi leur autorité. C'est un principe qu'on ne retrouve pas uniquement dans l'Ancien Testament, avec l'histoire des anciens, vous savez, de Moïse prend, mais on le retrouve aussi dans les enseignements de Paul et dans la manière dont Jésus a bâti son Église. D'accord ? Donc c'est le Dieu exerce son pouvoir gouvernemental. On ne peut y entrer que par la nouvelle naissance. Autrement dit, si tu veux recevoir la mentalité du royaume de Dieu, si tu veux être un citoyen du royaume, mais te comporter comme quelqu'un qui est du royaume, tu dois automatiquement passer par la conversion. Et Dieu, en retour, te fait naître de nouveau et t'accorde le Saint-Esprit. Et tu es une nouvelle créature et tu peux enfin apprendre à devenir un citoyen du royaume. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si, dans votre mentalité, vous êtes totalement opposé à ce que Dieu dit concernant le royaume, c'est que peut-être vous avez un problème à ce niveau-là. Peut-être que vous n'êtes pas né de nouveau. Peut-être que vous n'êtes que converti intellectuellement. Peut-être. Je dis ça, je lance un pavé dans la mare, et je vous laisse vous débrouiller avec ça. Donc on ne peut pas y entrer dans le royaume si on est d'eau et d'esprit. Ok ? Et puis, tout croyant appartient à tel royaume. C'est-à-dire, si tu crois, tu nais de nouveau, tu entres dans le royaume, et tu n'es pas simplement un enfant. Souvent on proclame « je suis enfant de Dieu ». Ok, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, mais je suis aussi un sujet du royaume. Et ça m'engage vers une notion qui est primordiale à mon avis, et sur laquelle j'insisterai régulièrement dans les semaines qui viennent, c'est l'obéissance et la soumission à Dieu. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, il y a un combat dans nos pensées, combat dans notre cœur, on sait ce que Dieu veut, et on fait à côté de ce que Dieu veut. Et hier, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jérôme, on a eu une conversation intéressante hier après-midi. Je lui disais, moi, en tout cas, en tant que responsable de cette communauté, avec l'ancien, j'ai qu'une seule responsabilité, c'est d'être dans l'axe précis dans lequel Dieu veut que nous allions. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que parfois, on peut accepter de faire un degré. Un degré, c'est pas grand-chose. Mais un degré pour ceux, les mathématiciens, pour ceux qui ont fait un peu de navigation, un degré ici, ce n'est rien. Mais au bout de quelques mille marins, vous allez voir ce que ça va faire. Vous n'êtes plus là où Dieu voudrait que vous soyez. Donc, autrement dit, vous savez, la notion d'obéissance, elle inclut quelque chose d'important, c'est la précision dans l'obéissance. Et plusieurs hommes dans la Bible, et je ne connais pas de femmes, sans doute que les femmes sont beaucoup plus obéissantes que les hommes. Là, normalement, les femmes devraient... Ouais. Mais il y a des hommes, en tout cas des personnages bibliques, qui ont fait l'expérience de la désobéissance. Je pense au roi Saül. Je pense à plein de personnes comme ça, qui ont dévié, qui se sont dit « Ah, mais qui ont agi émotionnellement » et puis qui ont fini par être disqualifiés dans leur appel. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'obéissance et la soumission à Dieu, c'est quelque chose qui est très précis. Et dans les temps qui vont venir, et on va aborder ça après, je pense que Dieu va être de plus en plus précis avec nous. Il va gratter dans des choses qui, peut-être, aujourd'hui, nous croyons que ce n'est rien, mais qui, pour Dieu, sont des choses importantes. Voilà. Je continue. Ça va pour l'instant ? Je vous embête pas trop ? Le royaume de Dieu. Cette définition du royaume de Dieu suscite en nous une question fondamentale. Est-ce que je me comporte comme un citoyen du royaume ? Donc ça, j'avance. Pour répondre à cette question, connaissons d'abord les valeurs du royaume de Dieu. Je ne sais pas qui était là il y a deux semaines. Qui était là il y a deux semaines ? Il y en a quelques-uns qui étaient là. Qui n'était pas là il y a deux semaines ? Ben, je ne vais pas vous tuer parce que vous n'étiez pas là. Hein. En fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a deux semaines, j'ai vécu une expérience assez particulière. C'était, j'étais dans ma, ouais, je crois que j'étais dans ma salle à manger, enfin dans mon salon pour ceux qui connaissent la maison, et je regardais mon jardin et je regardais la pelouse. J'ai partagé cette parole avec Eddie. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vu Eddie. On a prié ensemble et je voyais ma pelouse et je me disais quand même, Seigneur, merci, Seigneur, quoi, la pelouse, elle est belle par rapport à toute cette canicule, ce manque d'eau, elle avait bien reverdi, elle était bien, elle me paraissait belle vue de l'extérieur. Et là, j'ai clairement, hein, c'est rare que ça m'arrive, mais là, j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire, vas-y. Donc, je me dirige au milieu de ma pelouse et que vois-je ? Oh, catastrophe ! Il y avait des trous partout. Et il y avait une sorte de mousse que j'avais traitée au printemps, mais comme il n'avait pas plu beaucoup, cette mousse, elle avait roussi. Mais elle était toujours là. Et cette mousse empêchait à la fois deux choses importantes, les racines de pelouse de s'étendre, mais autre chose, c'est que si j'avais voulu reboucher les trous et ismer en ismant de la pelouse, ça n'aurait pas marché. Et là, le Seigneur me pousse à aller voir sur place et à faire le constat de ce qui ne va pas sur place. Et ça, ça a besoin d'être d'authenticité. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il me semble que parfois nous regardons nos vies d'un peu loin comme ça. Et nous disons, ouais, et il est pas mal Bruno, hein ? Non mais c'est vrai quoi, c'est un bon gars, etc., etc. Et puis, je pense que dans les temps qui viennent, l'Esprit de Dieu va nous amener à prendre conscience des choses dans nos vies qui doivent être réglées. Et d'ailleurs, vous avez reçu un mail qui nous invite dans ce mois d'Elul à rechercher ce que Dieu a à nous dire concernant nos propres vies. Et je pense que c'est un mois particulier dans lequel Dieu veut nous faire prendre conscience des choses qu'il veut traiter en nous. Eddie me dit, cette semaine, il me dit, Bruno, j'ai pensé à toi, j'étais dans une réunion de prière, la fin d'une réunion de prière, et puis, j'ai vu l'image d'un tsunami. Il me dit, tu sais à quoi on reconnaît un tsunami ? Je dis, oui, c'est l'eau qui se retire avant. Il y a un retrait de l'eau. Il me dit, j'ai vu une image de la mer du Nord, tiens, comme par hasard, parce que ça correspond à l'image que j'avais reçue, ça va faire 2 ans maintenant, au mois de novembre, lors d'une semaine de jeûne et prière, où j'avais reçu qu'un tsunami qui était composé, en fait, les vagues étaient composées de personnes qui étaient bousillées par la vie, qui allaient arriver sur la plage. Vous vous souvenez de cette parole prophétique ? Et là, il me dit, j'ai pensé à toi tout de suite, parce que j'ai vu la plage de Dunkerque, et j'ai vu la mer se retirer, mais ce n'était pas la marée basse, parce que ça va être dans le Nord, nous, il faut avoir le courage d'aller se baigner à marée basse. Hein. Il faut faire un peu de marche à pied quand même. Et là, il dit, c'était pas de marée basse, c'était un tsunami. Et là, chose folle et incroyable que j'ai pu voir, me dit-il, j'ai vu des chars de la bataille de Dunkerque qui étaient enfouis. J'ai des avions, j'ai vu des navires qui avaient été coulés, etc. En réalité, ce que la vague de recul, si je puis dire, la période de recul, avait révélé des choses qui étaient enfouies depuis des dizaines d'années. Et j'ai pris conscience que si on n'enlevait pas ça, si on n'enlève pas les choses dans notre cœur, les choses dans notre vie, les moindres détails, peut-être c'est juste un piquet qui dépasse comme ça. Si on ne le fait pas, imaginez la vague avec ces personnes qui vont arriver. Mais elles vont se tuer sur ces épaves. Il y a des gens qui vont être amenés par Dieu, mais nous, comme notre cœur ne sera pas purifié, comme notre vie ne sera pas belle, que va-t-il se passer ? Nous allons les tuer. Parce que les choses ne sont pas réglées dans notre vie. Et là, je dis à Eddie, « Waouh, qu'est-ce que cette parole est forte !» Parce que, en réalité, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Les gens n'osent pas dire la période que nous vivons, c'est le diable, etc. Ils n'osent pas prendre de position. Moi, je prends une position claire devant vous. Je crois, je suis convaincu que la période dans laquelle nous vivons est la période où la vague est retirée. Et Dieu a permis de révéler. Et il révèle encore. Et il va révéler des choses dans mon cœur. Je sais. Mais aurais-je l'authenticité d'y aller sur cette plage et de voir qu'il y a un piqué qui peut blesser quelqu'un ou quelque chose d'autre qui peut tuer? Et je crois que l'Esprit de Dieu, dans les temps qui viennent, va faire cela. Et il a reculé l'eau. Et maintenant, il met à nu des choses dans nos vies. Ah, c'est hyper inconfortable lorsque Dieu révèle des choses pas belles en nous, non? Moi, j'aime pas du tout. Hein. La seule chose que j'ai envie, j'ai dit, fais monter la marée haute, Seigneur. Mais là, le Seigneur dit, c'est pas une question de marée. C'est pas une question, dans 10 heures, elle sera pas là, l'eau. Je retire parce que j'ai deux choses à cœur. C'est que toi, tu sois purifié, capable d'accueillir ces personnes. Mais c'est surtout que je veux que les personnes que je vais t'envoyer soient restaurées et pas détruites encore plus. Donc, il y a une nécessité d'être authentique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'a pas le courage de se voir. Et on ne prend pas le temps et le courage de se regarder tel que nous sommes. L'authenticité, c'est la qualité d'un ouvrage, d'un événement, d'une pensée, d'une croyance conforme à la vérité. Être authentique, c'est être vrai. Et il est difficile d'être vrai. C'est une des missions du Saint-Esprit, d'ailleurs, et de la Bible. Hein. C'est de nous conduire dans toute la vérité, de nous enseigner ce que Jésus a enseigné. Et je crois que dans les temps qui viennent, vous savez, dans le Nord, il y a toujours du vent. Hein. Vous pouvez faire du char à voile, hein, ceux qui aiment le char à voile. Mais vous reculez l'eau. Mais je pense que le vent va souffler sur l'Église. Et vous savez, il était quand même écrit, c'est Pierre, je crois, qu'il écrit, que le jugement de Dieu vient et qu'il va commencer par la maison de Dieu. Ça veut dire que dans les temps qui viennent, il y aura les authentiques qui resteront face à Dieu, mais il y a aussi les hypocrites qui seront obligés de quitter. Parce que la pression de l'esprit sera telle qu'il nous faudra le courage d'accepter ce que nous sommes vraiment devant Dieu. Donc je vous ai rappelé la vision, donc j'ai pris de l'avance. Je veux simplement vous rappeler le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 14 et 15. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Quiconque aime et pratique le mensonge. Tu ne peux pas être authentique si tu pratiques le mensonge. Je ne vous encourage pas beaucoup, hein, mais c'est comme ça. Les valeurs du royaume de Dieu, donc je vais vous en faire qu'une aujourd'hui. Hein, on va s'arrêter là, hein, d'accord? Il faut déjà porter et absorber ce qui vous est dit ce matin. La valeur numéro une, c'est l'humilité. Pourquoi j'ai choisi l'humilité? Parce que vous avez en face de vous un homme qui a besoin de grandir là-dedans. Et je me suis dit, je n'ai pas besoin d'aller loin. Bon, je peux vous regarder un petit peu quand même. Mais je n'ai pas besoin d'aller loin pour aller voir et déterminer ce qui fait qu'un homme est orgueilleux. Il suffit que je me prenne un peu, je me regarde devant la glace, face à la parole de Dieu, face au Seigneur, et que le Seigneur me montre des parties de ma vie. Voilà. Donc je suis en train de me dévoiler devant vous ce matin parce que j'ai à cœur, voilà, d'entrer dans l'humilité. C'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer l'orgueil et la modestie. À qui pousse à réprimer l'orgueil. Virgule, c'est de la modestie. D'accord ? On ne repousse pas la modestie. Hein. Au contraire, on la prend. Je vous ai pris, allez, 6 caractéristiques de l'orgueilleux et 6 caractéristiques de l'humble. Et je vous ai mis, vous pourrez les méditer cette semaine. Article numéro 1, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui cache ses faiblesses, ses erreurs et ne fait apparaître aux autres que ses réussites et ses forces. Je suis désolé de vous le dire, mais là, c'est Matthieu qui nous disait ça la semaine dernière. Quand même, ce monde nous pousse à cacher nos faiblesses. Ce monde nous pousse à cacher nos insuffisances. On doit tout cacher. Et dès lors qu'on est dans des relations, je rappelle que l'Église n'est pas une organisation, une association. L'Église est un corps. Et dès lors qu'une main dit « je suis faible », si elle se cache, le corps va être faible. Et elle a besoin de dire « s'il te plaît, je suis faible, viens me soutenir ». C'est le principe même de ce que vous voyez dans le livre d'Exode. Lorsque Moïse lève les mains, à un moment, il avoue face à l'intercession de ce peuple qui est en train de combattre réellement. Lui, il lève les mains. À chaque fois qu'il lève les mains, il dit « Ah, je vois que le peuple est en train de gagner, donc il faut que je garde les mains. » Et à un moment, des mains s'affaiblissent parce qu'il est fatigué. Et que fait-il ? Les autres, parce qu'il s'entoure de personnes qui sont capables de voir sa faiblesse comme une force en réalité, parce que eux-mêmes vont aller à côté et vont le soutenir. Vous avez un principe évident qu'un corps, un membre du corps de Christ doit être capable de dire « oui, dans ce domaine-là, je suis faible ». Et si on regarde à l'intérieur de notre cœur ce que nous sommes, nous n'osons pas le dire. Et c'est encore plus difficile pour les responsables. Parce que si tu montres ta faiblesse, on va en profiter pour mettre en cause ton autorité. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Un jour, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je vous partage mon cœur. » J'ai l'impression des fois de dire des choses et on ne les fait pas. Et tu te souviens, j'ai dit ça à Simon à la réunion de louange, lorsque nous sommes vus il y a 2 semaines, tu m'as dit « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Bruno ?» J'ai dit « si les gens commençaient par faire déjà ce que je leur demande. » Faire ce que je leur demande. Et vous savez, quand on avoue nos faiblesses, j'ai l'impression que parfois on a utilisé les faiblesses sur les responsables et on a utilisé le fait qu'ils aient avoué leur faiblesse pour s'opposer à leur autorité. Ne faites jamais ça. Ne touchez jamais à l'autorité, à l'onction de quelqu'un. C'est très grave. Quand on touche à l'onction de quelqu'un, moi, j'y toucherai jamais. David n'a jamais touché à Saül. Il aurait pu le faire à plusieurs reprises. Il a même dit « je ne toucherai pas à loin de l'Éternel » alors qu'il avait reçu l'onction de roi. Donc, l'humble reconnaît publiquement ses erreurs, ses fautes et ses faiblesses. Donc, dites-vous bien que ce n'est pas parce qu'on remettra un jour mon autorité que je ne dirai pas mes faiblesses. Oui, je les dirai. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai commis des erreurs. Depuis que je suis pasteur, je n'ai pas été un pasteur parfait. Et devant vous, je vous demande pardon parce que je n'ai pas toujours été un homme parfait. Voilà. Et je n'ai pas peur de le dire. Après, si vous remettez en cause mon autorité, c'est entre vous et Dieu. Mais moi, en tout cas, je veux capter l'humilité. Faites cela. Partagez vos erreurs. Dernièrement, mardi, mercredi, je suis allé voir ma femme qui était allongée. Elle dormait, elle se demandait ce qui allait lui arriver. Je l'ai réveillée, j'ai dit « chérie, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas toujours écouté. Je n'ai pas toujours tenu compte de ce que tu m'avais conseillé. » Voilà, j'ai fait ça. Et il ne faut pas avoir peur de le faire. La deuxième, c'est qu'il juge sans connaître. Il y a bien quelque chose qui m'énerve. Ah non, mais vous êtes en train de vous dire, il rendait compte, Bruno. Mais non, je vous partage simplement des choses. Combien de fois j'ai dit, oh lui, je ne le sens pas, ou elle, je ne le sens pas. Et combien de fois j'ai entendu, oh, c'est-il là, oh lui, je ne le sens pas. Et vous parlez d'un frère ou d'une sœur en Christ. C'est-à-dire qu'une personne pour qui Jésus a donné sa vie. Vous avez le culot, et j'ai le culot de dire, mais lui, je ne le sens pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est d'un mépris incroyable. Alors que, qu'a fait Jésus ? Jésus, il allait vers les gens. Jésus, il aurait pu dire de la Samaritaine, « Ouais, là, je la sens pas. » Et il a reçu, elle a eu 4 maris. Et puis le mec avec qui elle vit, il est... Enfin, c'est 4, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, c'était une coqueuse d'hommes, apparemment. Elle avait beaucoup d'hommes, cette femme. Mais Jésus, est-ce qu'il a jugé à un moment donné? Il a juste tenu compte de la révélation pour l'amener vers le salut. S'il vous plaît, si vous voulez capter l'humilité, cessez de dire de l'autre que vous ne sentez pas. Ça veut dire quoi d'ailleurs sentir? Comme si vous aviez la pleine révélation de l'Esprit de Dieu. Moi, je peux vous dire, et c'est Marie qui m'a toujours dit, toi Bruno, tu fais attention, parce qu'il y a des gens à qui tu donnes confiance tout de suite et ils te trahissent après. Et des gens à qui tu te méfies, c'est des gens qui, quelques années plus tard, tu comptes sur eux. Donc fais très attention à la manière dont tu juges. Comment moi, je peux me permettre de dire de quelqu'un d'autre que je ne sens pas? C'est pour moi, quand je juge comme ça, sans connaître, c'est, et le Seigneur, le Saint-Esprit me l'a dit, hein, je te l'ai partagé cette semaine, Alice, c'est comme si j'avais une balance qui était faussée. Et vous savez que Dieu dit qu'une balance faussée est en horreur à l'Éternel. Moi, j'ai pris la décision de ne plus juger, j'attends de voir, je vérifie, j'apprends à connaître les gens. Et vous savez, quand on commence à faire le pas vers l'autre, à les connaître, on découvre des richesses chez les autres. On leur découvre des qualités. Et franchement, le sentiment, je ne le sens pas, il disparaît. Parce que, au fait, en fond de vous, il y a quoi? Il y a l'Esprit de Dieu en Christ. Il y a Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est en lui que, c'est lui que je vois à travers vous. Et c'est comme ça que nous devons être, frères et sœurs. Bon, je continue à vous encourager. Le suivant, c'est qu'il se sert. L'orgueilleux se sert. Il cherche à avoir 100 millions de petits chez moi, chinois, et moi, et moi, et moi. L'orgueilleux, il recherche pour lui. Il recherche la reconnaissance. Alors, il y a des origines par rapport, on ne va pas traiter ça, mais vous savez, l'orgueilleux, il veut recevoir. L'humble, il sert les autres. Et je peux vous dire que servir les autres, c'est parfois très, très, très difficile. Pourquoi? Parce que c'est un renoncement à notre confort personnel. Ensuite, l'orgueilleux, il se réjouit, se satisfait de la chute des autres. Voir quelqu'un chuter va nous donner une certaine satisfaction. Alors que l'humble, quand il voit une situation, il pleure, il prie et il relève. Je vous rappelle simplement que moi, si je me casse la main et que je brise mon poignet, il y a tout un... Enfin, je suis conçu comme ça. Ça va être... Le fait que je sois brisé, ça va me donner mal dans tout le corps. Mon cerveau va me donner un sentiment de douleur extrême. Pourquoi? Parce que je suis... Tout le corps est lié à cette main. Donc, quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un chute, quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un est dans la difficulté, et même quand quelqu'un a péché, je dois pleurer, je dois prier et je dois aller le relever. Et ça, c'est une attitude humble. Donc, je ne vous vise pas. Hein. Là, j'ai été chercher dans le cœur de Bruno. Hein. D'accord? Que les choses soient claires. Mais bon, si je vous vise un peu, c'est pas mal non plus. Quoi. Hein? Il cherche à posséder. L'orgueilleux veut posséder. Il veut se remplir. L'humble se laisse dépouiller. Jésus l'a dit, si quelqu'un veut ton manteau, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes. Et c'est à travers Jésus qu'on peut définir la véritable humilité. Et enfin, il sait tout, il connaît tout, il reste sur ses positions. Pourquoi je dis ça? En fait, je me rends compte, et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, c'est que j'ai l'impression qu'on veut donner des réponses à tout. Et du coup, on se donne une science de la connaissance de Dieu, de la connaissance des choses spirituelles. On veut donner une réponse à tout. Et si à un moment, on pouvait se dire, Seigneur, je ne connais pas grand-chose. Avez-vous vu le témoignage de Samuel Peter Schmidt sur YouTube après cette terrible épreuve qu'a vécue cette Église? Et il a dit simplement, pendant des années, j'ai prêché, enseigné sur des choses de Dieu que je ne connaissais pas. Et Dieu me demande aujourd'hui d'aller le voir, d'apprendre enfin à le connaître. Souvent, nous voulons donner des réponses à tout, s'il vous plaît. D'abord, soyez enseignables, enseignés, enseignables, et prenez aussi le temps de vous laisser reprendre par quelqu'un d'autre. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas accepter tout ce qu'on vous dit, mais au moins écouter la position de l'autre. Trop souvent, je crois que trop souvent, nous restons sur des positions. Et nous sommes convaincus. Je vais prendre l'exemple... Allez, j'aborde le sujet qui est un sujet... J'ai eu une réunion hier matin avec d'autres pasteurs de notre fédération d'église, une visio. Ils me disaient, on a des soucis avec le port du masque. Ah ben, je dis, c'est partout comme ça. Il y a des pour le masque, contre le masque, etc. etc. Et puis... À un moment donné, quelqu'un a dit dans une communauté, il a dit « Mais Dieu protège. » Ok. Alors moi, j'ai eu en pensée, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu en pensée. À un moment donné, je dis « Ce serait bien que les personnes aillent dire ça à Mulhouse, publiquement, vous savez. Vous allez dans l'église de Mulhouse, ils sont combien au culte ? 2000, 3000, 4000, peu importe. Et puis, il y a eu plusieurs morts, des gens qui ont été blessés, meurtris par ce qui s'est passé. Et vous allez leur dire, Dieu est notre protecteur, ayez foi, ne portez pas de masque. Bon, sauvez-vous vite, hein, d'accord ? Parce que là, prenez conscience que notre position, parfois, elle peut blesser quelqu'un d'autre. Et quand j'avance quelque chose, je dois faire attention à la manière dont ça va être perçu par les autres. Vous comprenez ? Je sais que Dieu est protecteur, je sais que Dieu est mon protecteur. Mais Dieu me demande aussi d'être sage. Et en fait, c'est un peu le bilan qu'on avait fait de cette réunion hier matin, parlant du masque. Bon, j'ai dit, nous, on n'a pas de souci ici, ils portent tous le masque. Et ils le font d'une manière docile, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, celui qui est orgueilleux, il sait tout, il connaît tout, il reste sur ses positions. Et celui qui est humble, il est en quête d'être repris et enseigné. Alors, j'aurais pu vous faire une liste beaucoup plus longue, hein. Bon, ça, c'est des parties de mon cœur qui doivent changer encore. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels, en tout cas, Dieu peut vous parler par rapport à l'orgueil. Ce que je vous invite à faire dans ce temps où l'eau se retire, je pense que la première des choses que Dieu va traiter, c'est l'orgueil. Donc, allons-y, traitons, humilions-nous, mettons à mal notre orgueil. Tuons l'orgueil, si je puis dire, afin que l'humilité puisse refléter dans toute notre vie. Ok ? Bon, ça va ? J'avais dit, Seigneur, t'es sûr que je dois dire tout ça ? Enfin bref. Les royaumes, les valeurs du royaume. Alors, juste une pensée. Être le plus grand, c'est devenir humble. Être le plus grand, c'est devenir serviteur. Non seulement humble, mais apprendre à être serviteur. Mettez-vous à servir dans l'Église. Mettez-vous à prendre soin des plus démunis. Mettez-vous à, pourquoi pas, à aller dans les rues et donner à manger aux gens lorsqu'ils ont faim. Mettez-vous à servir. Sortez de votre confort. Quand je dis sortez, c'est Betsalel, c'est moi aussi. Hein. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux, qui est aux cieux, dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Le royaume de Dieu ne consiste pas, si je puis dire, en position. Moi, je suis ici, moi, je suis là. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été embêté quand on m'appelle pasteur, je peux vous le dire. Je n'aime pas ça. Je préfère qu'on m'appelle Bruno, ou Bru pour les plus intimes, mais je préfère qu'on m'appelle Bruno. Voilà, je vous le dis, appelez-moi Bruno. J'ai une fonction pastorale, mais je suis avant tout Bruno, qui veut devenir humble et servir le corps de Christ. C'est cela que je veux devenir. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ça vaut le coup de devenir humble quand même. Hein? Voilà. En résumé, le royaume de Dieu est la sphère où Dieu gouverne. Pour voir le royaume, il faut naître de nouveau. Le royaume implique l'obéissance précise. J'ai besoin d'authenticité pour évaluer mon comportement dans le royaume. Donc je vous invite à le faire. Ne restez pas dans votre salle à manger à admirer votre pelouse. Allez au centre. C'est le mois d'Elul. C'est un temps où Dieu veut nous parler. C'est un temps où Dieu veut nous accorder son grand pardon. Et le grand pardon arrive. Mais comment pourrons-nous être pardonnés si nous ne confessons pas nos péchés? Notre attitude contraire à ce que Dieu veut. C'est le but du Saint-Esprit de la Bible de me conduire en toute la vérité. Et je suis convaincu que Dieu va révéler encore et encore et encore dans les temps qui viennent. Il va révéler des épaves dans notre vie. Ce sera hyper inconfortable et je remercie le Seigneur pour cela. Et enfin, la première valeur que je recherche, c'est l'humilité. Donc, prenons rendez-vous. Il y a d'autres valeurs dans le royaume et il faudra revenir. J'aurais fait un bon commercial, hein. Enfin, ça dépend, parce que faut voir comment vous avez apprécié le message de ce matin. Peut-être que dimanche pas prochain, on sera que nous, ici, tu sais. Rendez-vous la semaine prochaine? Ah, il y a des gens qui ont dit amen, ça va, on sera pas tout seul. Allez, que Dieu vous bénisse.